Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, comme tous les matins, vous le savez, à cette heure-ci, RFI vous donne la parole pour commenter l'actualité. D'ailleurs, dans une demi-heure, nous lancerons le débat sur Modibo Keïta, le nouveau Premier ministre malien. Il est d'ailleurs le troisième chef de l'exécutif en moins de 2 ans. Il faut dire que le Mali est confronté à des difficultés économiques et sociales, mais surtout, vous le savez, à une crise sécuritaire dans le nord du pays. Du coup, le président Ibeka compte sur Modibo Keïta pour donner un nouveau souffle à son quinquennat. Modibo Keïta, vieux routier de la politique malienne, il a plusieurs fois été ministre et même premier ministre, et d'ailleurs jusqu'à la semaine dernière, il était en charge des pourparlers de paix entre le gouvernement et les groupes armés. Alors est-il l'homme de la situation aujourd'hui? Peut-il relever les nombreux défis qui l'attendent? C'est un sujet qui ne vous laisse pas indifférent. Vous êtes nombreux au standard, nombreux également sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission. Vous continuez à nous rejoindre, 33 9 693 693 70 09 693 693 70, si vous nous appelez de France, et la page officielle Facebook de l'émission, c'est RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les matins, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter tous les sujets que nous traitons chaque demi-heure, évidemment, dans les différents journaux des RFI, des sujets que vous pouvez consulter sur le site rfi.fr. Des questions encore ce matin. Après les attaques de la semaine dernière contre Charlie Hebdo, à Montrouge, à Dammartin, en Goële ou encore Porte de Vincennes, Jean-François, vous nous appelez d'Abidjan. Bonjour.
Oui, bonjour Yoann.
Bienvenue, on vous écoute.
Alors, dans le cadre de l'attaque des auteurs des attentats de Paris, nous avons noté une collaboration entre diverses forces, notamment le GIGN et le RED. Alors, je voudrais savoir quel est le rôle spécifique de chaque unité, de chaque groupe. Savoir quelle est la différence entre elles, et puis dans un second temps, dans le cas d'une collaboration, d'une pareille collaboration, qui a la responsabilité des opérations?
Le GIGN et le RAID, les services d'élite de la police et de la gendarmerie. Bonjour Olivier Four.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le spécialiste des questions militaires à RFI. Ce sont effectivement deux unités qui ont longtemps été rivales. Mais on l'a vu la semaine dernière, pour la première fois, on peut le dire, les hommes du RAID et du GIGN sont intervenus ensemble pour traquer les frères Kouachi et Amédi Coulibaly.
Ouais, le RAID et le GIGN, côte à côte. En fait, ce sont deux unités d'intervention. Et effectivement, de ce qu'on a vu vendredi dernier en région parisienne, ces unités ont des modes d'action très similaires. Le RAID, acronyme signifiant recherche, assistance, intervention et dissuasion, a été créé en 85. Il est rattaché à la police nationale, donc en principe le périmètre des interventions du RAID, c'est le territoire national. C'est pour cela notamment que le RAID est intervenu lors de la prise d'otage de la maternelle de Neuilly en 93, mais aussi quelques années avant lors de l'arrestation des membres d'Action Directe à Vitry-aux-Loges près d'Orléans. C'est également le RAID qui est intervenu en 2012, cette fois-ci, lors de l'affaire Mera à Toulouse. Une fois de plus, côté équipement, côté armement, côté entraînement, c'est assez similaire à ce que fait le GIGN.
Et en même temps, on dit souvent que le RAID a davantage, on va dire, une culture police.
Oui, exactement. En fait, on dit souvent que le RAID a dans ses rangs de très bons spécialistes de la négociation. Il faut dire que les éléments du RAID sont parfois amenés à intervenir sur des prises d'otages qui ne sont pas du tout liées à des affaires de terrorisme. Par exemple, pour régler par la négociation ou par la force un différend d'ordre privé. Par exemple, lorsqu'un forcené menace de tuer sa famille avec une arme de chasse, ça, malheureusement, ça arrive assez régulièrement. Et très souvent, c'est le RAID qui intervient. Le GIGN aussi peut intervenir, mais le RAID a effectivement cette culture police. Après, en termes d'effectifs, le RAID, c'est beaucoup moins que le GIGN. Moins de 200 hommes au RAID contre à peu près 400 au GIGN. Et surtout, le GIGN est rattaché, vous l'avez dit, à la gendarmerie nationale. En clair, au sein du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, il n'y a que des militaires. Le GIGN a été fondé en 1974, après la prise d'otage des Jeux Olympiques de Munich. La grosse différence en termes de périmètre, c'est que le GIGN est amené à intervenir à l'étranger. En 79, par exemple, on en avait peu parlé à l'époque parce que ça s'était fait sous le sceau du secret, mais pour mettre fin à la prise d'otage de la Mecque en Arabie Saoudite, le GIGN était intervenu à la demande des autorités saoudiennes. Plus récemment et de manière très discrète, en Afghanistan, le GIGN avait été déployé, permettant de donner une dimension légale, je veux dire d'un point de vue juridique, à des opérations qui étaient menées au petit matin contre des chefs d'insurgés, car les hommes du GIGN pouvaient dresser des procès-verbaux, ce que les militaires de l'OTAN ne pouvaient pas faire. Les militaires de l'OTAN, c'était de simples soldats, alors que les hommes du GIGN, eux, sont assermentés.
Ah, et les compétences du GIGN sont quand même très larges.
Oui, alors il y a l'intervention, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu vendredi, mais il y a aussi la protection, par exemple pendant des années autour du personnel diplomatique français à Bagdad, en Irak. Le GIGN fait aussi de l'audit, comme en 2013 au Mali, pour évaluer la sécurité des emprises diplomatiques françaises, ainsi que de la formation au profit des forces étrangères. Et de ce point de vue, le GIGN a une très forte expertise en termes de contre-piraterie aérienne. Souvenez-vous, l'Airbus de Marignane en 94, c'était le GIGN.
Ouais. Qui a eu la responsabilité des opérations la semaine dernière? C'est la question que nous posait Jean-François.
Alors, dans le cas présent, et à chaque fois que ça monte à ce niveau-là, c'est le politique qui était à la manœuvre. Hollande, Valls, Cazeneuve. Après, d'un point de vue opérationnel, ben, sur le terrain, le GIGN est intervenu à Dammartin, alors que la police, le RAID et la brigade de recherche et d'intervention devaient intervenir porte de Vincennes. En fait, le matin, ils étaient côte à côte, mais il a fallu un peu couper en deux les responsabilités. Donc, le GIGN est resté à Dammartin et le RAID devait descendre porte de Vincennes. Comme il fallait mener des opérations simultanées, les chefs du GIGN et du RAID se sont coordonnés, mais attention, il n'a jamais été question de mixer les équipes. C'est pas une question de concurrence, c'est tout simplement parce qu'aussi bien au RAID que GIGN, les hommes qui constituent les groupes d'intervention ont l'habitude de travailler ensemble. Ils ont répété entre eux des gestes précis des centaines de fois et rien ne doit venir perturber le déroulement de l'assaut.
Ouais, on peut imaginer une fusion de ces deux services ou pas?
Alors ce qu'on sait, c'est que les forces d'intervention en France essayent de gagner en volume. Pourquoi? Parce que le GIGN d'ailleurs a commencé à essayer de gagner des effectifs. Pourquoi? Parce que on sait que à l'avenir, les forces d'intervention seront de plus en plus confrontées à ce qu'on appelle des prises d'otages de masse, comme à Bombay en 2008, à Nairobi en 2013, souvenez-vous, dans ce mall de Nairobi, ou à In-Amenas en Algérie, sur le site pétrolier, il y avait un groupe d'une petite quarantaine d'hommes de terroristes qui étaient rentrés dans ce site pétrolier. Donc on se rend bien compte qu'en face, il faut un gros volume de forces d'intervention. Alors est-ce que ça passera par une fusion du RAID et du GN, ça l'avenir le dira. En tout cas, pour l'instant, ce sont des unités complémentaires, ne serait-ce aussi qu'en termes de maillage de territoire.
Voilà Jean-François, merci de nous avoir appelé, on vous souhaite une bonne journée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Olivier Four, à bientôt, spécialiste des questions militaires à RFI. Un autre spécialiste au sein de la rédaction nous rejoint, c'est Franck Alexandre. Bonjour Franck.
Bonjour Juan.
On vous a demandé de venir, vous suivez les affaires judiciaires au sein de la rédaction. On a une question qui nous vient du Mali, c'est Sidi que nous avons en ligne. Bonjour Sidi.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Bonjour, Juan. Bonjour, RFI.
Allez-y.
On a vu que les terroristes qui ont agi cette semaine en France, qui étaient très lourdement armés. Moi, ma question, c'est de savoir d'où viennent leurs armes. Comment ils se sont pu procurer leurs armes?
Alors, d'où vient cet arsenal de guerre, des fusils d'assaut Kalachnikov, lance-roquettes? On peut se procurer aussi facilement des armes à Paris?
D'où viennent ces armes? Nécessairement, Juan, Sidi, nécessairement des réseaux du grand banditisme. Les trois terroristes avaient des profils de petits délinquants. Acheter une Kalachnikov en région parisienne quand on a un petit délinquant, aujourd'hui, c'est plus très compliqué. C'est pas très cher, c'est quelques centaines d'euros une Kalachnikov. C'est l'arme du pauvre, ça c'est facile. Ce qui est étonnant dans le cas présent, c'est le volume des armes. On parle de plusieurs armes de poing, presque une dizaine de Kalachnikov, et des armes rares. Il y a ce lance-roquettes détenu par les frères Kouachi, et il y a ce pistolet mitrailleur Scorpio détenu par Amédi Koulibaly. Le Scorpio, vous savez, c'est le fusil d'assaut utilisé par les forces spéciales russes. C'est une arme redoutablement puissante. C'est une arme rare, c'est une arme une arme qui coûte cher. Et là, on peut s'interroger. Quelle est la filière qui a pu leur fournir ces armes? Autre chose, si on achète les armes au compte-goutte, effectivement, on peut passer entre
entre les mailles du filet.
Ouais. Si on les achète, mais là, vu la quantité d'armes, il a bien fallu qu'à un moment, ils les achètent en série. Comment ils ont réussi à ne pas alerter les services de police? Vous savez, dans le grand banditisme, il n'y a que des indices. Donc, généralement, quand ils se préparent quelque chose de gros, ça finit toujours par fuiter. Et là, écoutez, non. Et puis, on n'a pas fini. Hein. On a découvert les planques d'Amédi Coulibaly. On sait qu'il a certainement un complice qui court toujours. Mmh. Peut-être y a-t-il encore d'autres planques avec d'autres armes. Ils avaient également des brassards police, pas facile à se procurer. Des pare-soleils de voitures police, siglés police. Ça, c'était les frères Kouachi qui avaient ça dans le coffre de leur voiture. Bien sûr, les enquêteurs aujourd'hui sont en train de remonter le fil pour savoir comment ils ont pu obtenir un arsenal aussi considérable.
Mmh. On estime que la valeur totale des armes détenues par les frères Kouachi...
À peu près 7 000 euros oui. pour les frères Kouachi, 7 000 euros pour Amédi Coulibaly.
Ce qui fait un total de 14 000 euros.
Oui, mais c'est que le début. Hein. On veut peut-être découvrir d'autres armes dans d'autres planques.
Voilà ce qu'on peut dire donc à l'heure actuelle. Merci Franck Alexandre d'être venu. Et on remercie Sidi nous écoute à Sikasso, au Mali, où il est très exactement 8h21. Merci de nous rejoindre. 33 9 693 693 70. Je vais me faire le porte-parole de Cheikh. Cheikh est à Conakry. On a un petit problème avec le réseau téléphone entre Paris et la Guinée, mais on va essayer de régler ça dans un instant. Cheikh qui revient sur les récentes déclarations d'Angela Merkel, en tout cas prêtées à la chancelière allemande. Elle serait prête à laisser la Grèce abandonner l'euro. L'Allemagne a évoqué une sortie de la Grèce de la zone euro si le parti de la gauche radicale remporte les prochaines élections législatives, des élections anticipées prévues la semaine prochaine, le 25 janvier pour être précis. Et lui veut comprendre comment expliquer la réaction d'Angela Merkel et les différentes réactions contradictoires qu'ont suscité les propos d'Angela Merkel. Bonjour Pascal Thibault.
Oui, bonjour Juan, bonjour Cheikh.
Vous êtes le correspondant de RFI à Berlin. On a l'impression, en tout cas en lisant le journal Spiegel, qu'Angela Merkel a donc changé d'avis concernant la Grèce et la zone euro.
En tout cas, il y a eu un flottement qui n'a pas été très profitable à l'image de l'Allemagne, qui a d'ailleurs été critiqué par d'autres pays de la zone euro et pas seulement en Grèce. Tout a commencé avec une publication dans l'avant-dernier numéro du Spiegel qui disait effectivement que l'Allemagne et la chancelière Merkel pourraient imaginer, en cas de victoire de la gauche en Grèce le 25 janvier, une sortie de la Grèce de la zone euro. Si cela signifiait, cette victoire de la gauche, que la Grèce renonce aux réformes auxquelles elle s'est engagée jusqu'à présent, et on renoncerait également au versement d'une tranche de 10 milliards d'euros d'aide qui doit encore être versée. Alors, le porte-parole d'Angela Merkel ensuite a démenti sans démentir au lendemain de la publication de ces informations. Il y a eu des prises de position un petit peu flottantes ou divergentes au sein de la grande coalition droite-gauche, jusqu'à ce qu'on essaye de rectifier le tir en soulignant en milieu de semaine dernière que l'Allemagne, comme elle l'avait dit dans le passé, souhaitait que la Grèce reste dans la zone euro et que la parole devait d'abord être donnée aux électeurs grecs et que toute spéculation n'était pas d'actualité. Alors que un autre journal allemand évoquait déjà des scénarios qui étaient déjà dans les cartons du gouvernement allemand.
Ouais, ça signifie quoi? Que c'est Angela Merkel en personne qui a tenté de calmer le jeu? Ou c'est son entourage et son gouvernement?
Tout à fait, puisque son porte-parole évidemment est, j'allais dire, la voix de son maître ou en l'occurrence de sa maîtresse, et il a effectivement essayé de calmer le jeu après des flottements qui ont suscité des irritations tant en Allemagne qu'à l'étranger, en Grèce bien évidemment en premier, mais aussi des partenaires de l'Allemagne comme l'Autriche ou la Lettonie ont critiqué cette prise de position qui était finalement une immixtion dans les affaires intérieures Grèce, en quelque sorte, une prise de parti. Certes, en tout cas, Angela Merkel n'aurait pas été la seule à souhaiter, d'autres l'ont fait, une non-victoire ou en tout cas une défaite de Syriza le 25 janvier. Mais effectivement, cette Ce flottement et ces prises de position ont un petit peu contribué à renforcer l'image déjà négative de l'Allemagne dans certains pays en Europe et a fortiori bien évidemment en Grèce, où on a un petit peu l'impression que on subirait, restons conditionnels, un diktat allemand. En tout cas, depuis la milieu de la semaine dernière, on a pris des prises de position encore une fois plus fermes, et puis il semble que également à Bruxelles, on réfléchit à des solutions pour peut-être donner plus de temps à la Grèce pour rembourser ses crédits, si Monsieur Tsipras devait l'emporter, former le prochain gouvernement en Grèce, et peut-être un petit peu atténuer un certain nombre de ces revendications les plus radicales.
Oui. Alexis Tsipras, qui est pour l'instant le grand favori des prochaines élections législatives, donc du 25 janvier en Grèce. Pascal Thibault, bonne journée à Berlin. RFI à Berlin, c'est sur les 96.7 FM. Et on remercie Cheikh de nous avoir rappelés. Et j'espère qu'il a pu entendre vos explications en vous écoutant, Pascal. Bonne journée à tous les deux. 9h25 à Paris. Il nous reste encore le temps de prendre une dernière question. On va parler football. On va s'intéresser au FC Barcelone. Amat, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour RFI et bonjour FC Barcelone.
Je ne sais pas si on nous écoute, si Lionel Messi en l'occurrence nous écoute, mais pourquoi pas Alejandro Valente, lui vous écoute attentivement, il est le chef du service des sports d'RFI. Bonjour Alejandro.
Bonjour Juan, bonjour Amat.
On vous écoute Amat.
Bon, nous avons constaté lors de la dernière défaite du FC Barcelone que Messi est sur le vent. Le lundi, Jules Zerata est limogé. Après lui, Carles Puyol quitte. Alors, quelles sont les raisons de tout cela ou bien peut-on dire qu'il y a une crise au sein du club?
Ah, une crise au sein du Barça, Zubizarreta, c'est le directeur sportif du club, effectivement, limogé. Et on a vu que dans les heures qui suivent, quand même, une des anciennes gloires du Barça, quelqu'un qui incarne quand même ce club, Carles Puyol, démissionne à son tour. Que se passe-t-il au Barça?
Il y a une crise, pas forcément à cause de la démission de Puyol, mais il y a un ensemble d'éléments qui se sont accumulés au fil du temps et qui ont nuit, disons, à l'image et à la cohérence et à l'homogénéité de Barcelone depuis 2 ans et demi, depuis le départ de Pep Guardiola. Mmh. Il y a eu la multiplication d'entraîneurs qui se sont succédés sur le banc. Il y a eu la contestation de la direction issue des dernières élections. On a vu le président Rossell qui avait démissionné suite à des problèmes avec la justice, son successeur qui convoque des élections anticipées pour le mois de juin. Il y a donc la démission de Zubizarreta, enfin le limogeage plutôt de Zubizarreta, et puis surtout les résultats qui ne sont pas catastrophiques, mais qui ne sont pas excellents. Barcelone vient de boucler une saison sans titre, ouais, alors qu'il dominait le monde.
Ils n'ont rien gagné en 2014.
Voilà. Après, les cas de Puyol, c'est plus lié à des raisons personnelles et au travail de son épouse qui est basée essentiellement aux États-Unis et à son peu d'intérêt pour un travail de bureau, comme il dit, qu'il a décidé de quitter le club. C'est pas forcément lié à cette crise.
En tout cas, il y a quand même, là pour le coup, Alejandro, vous allez sûrement pas me contredire, des petites tensions ou des grandes tensions entre l'entraîneur et Lionel Messi.
Bien sûr, et après il y a eu le choix de Luis Enrique, qui est un entraîneur qui a un caractère un peu difficile et qui est contesté par une partie de l'effectif. Cela dit, depuis l'événement qu'évoquait Amat, à savoir la présence de Lionel Messi sur le banc au départ du match contre la Real Sociedad, il y a eu 2 matchs qui ont quand même montré que l'équipe savait se rebeller et même se surpasser. On a eu une victoire face à Elche 5-0 en coupe. Mmh. Et surtout cette belle victoire dimanche face à l'Atlético Madrid 3-1 avec un but de chacune des stars de l'attaque barcelonaise, dont Lionel Messi, qui a bouclé quand même une année 2014 intéressante sur le plan des statistiques, qui vient de terminer deuxième dans le concours du Ballon d'Or. Donc Barcelone est en crise incontestablement, et probablement les élections organisées en juin prochain permettront de dégager une nouvelle direction et une nouvelle tendance, mais bon, il y a quand même loin d'être une situation dramatique. Barcelone a quand même des belles armes encore et pourra se surpasser s'il a vraiment la volonté de le faire.
En tout cas, si Lionel Messi souhaite écouter RFI, on lui donne la fréquence. C'est sur les 105.3 dans la capitale catalane. Merci Alejandro Valente. Merci. Bonne journée à vous. Merci à Matt d'écouter RFI à Djamena. Vous restez avec nous, évidemment. On l'espère. Dans un instant, le point complet sur l'actualité. Ce sera la dernière édition d'Afrique Matin. Et dans 10 minutes, nous continuerons à vous donner la parole et nous commenterons la politique malienne avec la nomination il y a quelques jours d'un nouveau Premier ministre. C'est le troisième en moins de 2 ans.